Bonjour à tous. J'ai choisi ce son pour partager avec vous parce que je trouve que c'est pour moi et pour vous, ça sera un encouragement. Alors, David a écrit ce son quand il est ensuite devant son fils Absalom. C'était vers la fin un peu de son règne. Un de ses fils, Absalom, il voulait être roi, mais comme David ne l'a pas nommé comme roi, il a trouvé des moyens. Il vaut mieux que je parle. D'accord. En fait, il se levait de bon matin et se tenait sur le bord du chemin qui conduit vers la porte de la ville. Et là, il invite à toutes les personnes qui vont demander au roi de rendre justice. Il leur dit, si vous m'établissez comme juge, je vous rendrai justice. Et en fait, en faisant comme ça, il a gagné pratiquement le cœur des hommes d'Israël. Pendant 4 ans, il faisait comme ça. Donc, il a racheté un peu les hommes à lui. Et ensuite, il a demandé l'autorisation à David d'aller à Hébron pour accomplir un vœu qu'il a fait à l'Éternel. Mais en fait, c'était pas vrai. Il est allé pour se proclamer roi. Donc, quand ça s'est passé, les hommes sont venus informer David. Et là, David a su que c'est vraiment un coup d'État. Donc, David a dit à ses soldats, ses membres de la famille, donc il a dit, on va s'enfuir. Sinon, Absalom va venir et nous tuer, et puis toute la ville sera ensanglantée. Voilà. Donc, David est parti à ramener toute sa famille en laissant 10 concubines pour garder le palais. Le reste de sa famille sont donc partis avec David en fuite devant son propre fils Absalom qui voulait être roi. Et un de ses meilleurs conseillers de David, Achitophel, a suivi Absalom contre David. Voilà, donc David, c'est dans ce... Donc vous imaginez David, à ce moment-là, sa vie est vraiment entre la main de son fils. S'il est rattrapé par son fils, ça a probablement tué. Mais voilà, mais dans ce moment le plus difficile de sa vie, il a écrit ce psaume. Le psaume 3, c'est aussi au même moment qu'il a écrit le psaume 3 aussi. Donc là, c'est pour cela que j'ai vu que David, au moment de sa détresse, de son danger, il ne regarde pas vers les circonstances, il ne regarde pas vers la personne, mais il a choisi de regarder à Dieu. C'est pour cela que je vous propose de voir ensemble comment David a fait pour sortir de cette détresse. Premièrement, il médite sur la bonté de Dieu. Deuxièmement, il espère en Dieu. Il met son espérance en Dieu. Et troisièmement, après avoir vraiment mis toute espérance en Dieu, il arrive à se jouir, à prendre plaisir en Dieu. Même pendant ce temps de détresse, vraiment sa vie est en danger. Je vous invite à réfléchir dans votre vie. Je pense que chacun de nous a eu d'avoir des moments très difficiles, très éprouvés. Pendant ce temps, quand vous étiez dans cette circonstance, comment était ta réaction? À qui tu faisais appel? Est-ce que tu as fait appel, comme David, au Seigneur? Voyons ensemble. Pourquoi j'ai dit que d'abord, David méditait sur la bonté de Dieu? C'est dans le psaume 63, verset 7. David écrit, « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Donc là, il faut garder en tête qu'il n'est pas en voyage, il n'est pas en croisière. il est en train de fuir son fils, qui à tout moment risque de l'attraper. Mais là, il dort. Et il médite sur l'amour de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur tout ce que Dieu a fait pour lui toute sa vie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent assez bien David. David a été oint par Samuel quand il était berger. Il doit avoir à peu près 16 ans. Mais il n'est pas devenu roi tout de suite. Il a dû attendre une dizaine d'années. C'est à l'âge de 30 ans, il est devenu le roi d'Israël. Et pendant ce temps-là, il est pourchassé par le roi Saul, qui est pourtant son beau-père. Voilà, donc sa vie n'a pas été toujours vraiment très joyeuse. Mais pendant ce moment pourchassé par Saul, la main de Dieu est sur lui. Il est toujours gardé par le Seigneur. Ce psaume, pourquoi je dis, il n'est pas, pourquoi je dis, c'est devant la fuite de Absalom, parce que dans le verset 12, il dit que c'est le roi. Donc, il est déjà le roi. Donc, ce n'est pas la fuite devant Saul qu'il a écrit ce psaume-là. Donc, David, il a vraiment goûté à la bonté de Dieu. Il a vu que pendant tout ce temps-là, que Saul cherchait à le tuer, il a à chaque fois vraiment, Saul n'a pas pu mettre la main sur David. C'est pour cela, il a vu vraiment que Dieu est bon. Pareil, quand il a commis les doubles fautes, Dieu a envoyé Nathan pour lui parler de ça, et il s'est repenti, donc il est remis à Dieu, et il sait de tout son cœur que sa faute, qui ne devrait pas être rachetée par aucun de offrande, holocauste, mais comme il s'est repenti de son cœur, Dieu l'a pardonné. Donc, il n'a plus de culpabilité en lui. Donc, le roi David, vraiment, il a vu vraiment Dieu agir dans sa vie. Je pense que chacun de nous aussi, nous avons tous expérimenté la bonté, l'amour de Dieu dans notre vie. C'est bien vraiment de méditer, de penser à cela. Ça nous aide à vraiment retenir vraiment que Dieu est bon. C'est pour ça David, il a dit dans le psaume 34, il dit que ils disent aux gens, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Dans une autre version, c'était venez. Je préfère venez et goûtez combien l'Éternel est bon. Et ça, c'est vrai. Quand je prêche l'Évangile aux autres, je leur dis toujours. Vous savez, c'est comme si je suis sauvée par Jésus parce que je me suis repentie et il m'a pardonné. C'est comme si j'ai mangé un gâteau super bon. Et je vous invite de goûter. Mais si vous ne goûtez pas, vous ne pouvez pas connaître la saveur, le goût de ce gâteau. Voilà, il faut que la personne goûte. Donc David, il a vraiment goûté à la bonté, à l'amour du Seigneur. Voilà, c'est pour ça il invite les autres de faire pareil. Sinon, dans pas mal de psaumes, chante aussi la bonté de Dieu qui est bon éternellement. Voilà. Donc pour nous, en tant que chrétiens de nos jours, je pense que je pense que c'est bien pour nous vraiment de toujours méditer sur les bienfaits de Dieu. Il y a un chant qui chantait « Comptez les bienfaits de Dieu ». C'est vraiment super ce chant. Plus on les compte, je pense que pour chacun c'est pareil. Moi, avant d'être chrétien, j'étais pas reconnaissant envers le Seigneur. Mais depuis que je suis convertie, ça fait 13 ans, je revois ma vie depuis ma naissance jusqu'à maintenant. Mais je dis à Dieu, c'est ouf. C'est ouf, comme on dit. Ouf. Même quand je n'étais pas, quand j'étais loin de toi, tu m'as quand même béni. Donc, franchement, pourquoi vous dites ça? Parce que je suis née au Cambodge. Il y a beaucoup de mes cousins, cousines ont connu l'exode avec Khmer Rouge. Ils ont dû s'enfuir. Ils ont vu des cadavres, ils sont vraiment tout ça. Et moi, j'ai échappé à tout ça. J'ai quitté le Cambodge en 72, avant que les Khmer soient rentrés dedans. J'ai pu aller faire mes études tranquilles à Hong Kong, ensuite en France. Ça, c'est franchement cool. Et quand je vois tout ça, je dis que Dieu est vraiment envers ses enfants. Donc, je vous invite vraiment de compter, de méditer sur tout ce que, tous les bienfaits, toute la grâce que Dieu a fait pour vous. Comme ça, ça vous aidera en cas de détresse, en cas de danger, vous allez être sûr de l'amour, de la bonté de Dieu pour vous. En dehors de méditer sur l'amour de Dieu, sur la bonté de Dieu, le fait de lire la Bible, la parole de Dieu nous aide aussi. Parce que la Bible raconte l'œuvre de Dieu parmi le peuple Israël et aussi parmi tous les personnes, ses serviteurs qui se confient à lui. Donc nous voyons, à partir de là, nous voyons que Dieu est vraiment bon. Comme dit ici, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Par exemple, quand j'ai eu une épreuve importante, quand je me suis trouvée dans une situation de détresse, j'ai pensé aux différents personnages dans la Bible. Par exemple, Joseph, qui est vendu comme esclave, qui est éloigné de ses parents, et au bout de 13 ans à 30 ans, il est arrivé il est devenu premier ministre de l'Égypte, etc. Voilà, quand je me suis dit, tous ces personnes, tous ces héros de la foi, tous ils ont connu, c'est pire que moi. Donc du coup, je me réconforte, console à moi-même. Tout ce que Dieu t'a donné, c'est rien du tout par rapport à Joseph, par rapport à Moïse, à David. Donc du coup, je dis, oui Seigneur, tu es toujours bon envers ceux qui t'aiment. Ça m'a aidé de sortir de ma détresse, que j'ai eu la paix et je n'ai plus peur. Voilà, donc méditer sur la bonté de Dieu, c'est vraiment... Ça rafraîchit notre mémoire et ça fait marcher la mémoire. Donc, comme ça, ça nous évite de devenir Alzheimer après. Ensuite, espérer en Dieu. David, il médite sur la bonté de Dieu et il cherche Dieu. Il ne regarde pas vers la circonstance. Le verset 2. Non, ça c'est après. Verset 2 de Psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Voilà. David cherche vraiment Dieu. Il refuse de regarder la circonstance désespérée. Et quand il cherche Dieu, il se laisse trouver par Dieu. Dieu se laisse trouver par lui. Voilà, il dit tout de suite dans le verset 3. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire, pour voir ta force et ta gloire. Voilà, Jésus l'a dit, celui qui cherche, trouve. Celui qui frappe, j'ouvre. Si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, le Seigneur se révèle à nous. Donc David, là, vraiment, il ne pense plus à Absalom qui est en train de le rattraper. Il pense, il cherche le Dieu. Quand on cherche Dieu, ben, on regarde vers le ciel. On détourne notre situation désespérée, dangereuse, on regarde vers le Seigneur. Tout à l'heure, on a chanté « Fixer les regards vers Jésus-Christ », c'est pareil. Jésus, il a ouvert le chemin de la foi, il amène à la perfection. Donc vraiment, en cas de détresse, ne regarde pas sur la détresse, sur la personne, sur la situation, mais regardez, levez nos yeux vers le haut, vers le Seigneur. Et là, David a dit, pour voir la force et la gloire de Dieu. C'est encore ouf. la force et la gloire de Dieu. Dans d'autres versions, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, David l'a vécu. Quand il a combattu Goliath, il l'a bien vu. C'est pas avec ses deux, sa petite pierre qui peut tuer Goliath. C'est Dieu qui a permis que le géant, qui est trois fois plus grand que lui, soit tué. La puissance de Dieu, il l'a vu quand il a échappé à maintes fois au roi Saul, etc. Il a vu vraiment la puissance de Dieu. Et nous, avec Jésus-Christ, c'est encore plus fort. La puissance de Dieu, l'apôtre Paul nous l'a dit dans Éphésiens chapitre 1, versets 18 à 21. L'apôtre Paul prie pour les chrétiens de Éphèse. Il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force? Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Vous voyez, c'est cette puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ et qui va nous ressusciter, nous aussi, quand Jésus revient. Et c'est pour cela que Paul, il a toujours en tête cette perspective de la puissance de Dieu en lui. Ça le motive à vraiment, il n'a peur de rien, on va dire. Puisqu'il a décrit dans 2 Corinthiens tous les coups, tous les naufrages, tout qu'il a souffert, mais il fait toujours confiance à Dieu. Parce qu'il sait que cette puissance de Dieu est en lui. Et nous l'a dit dans un autre chapitre de Éphésiens, il dit que à celui qui peut faire par la puissance qui demeure en nous, au-delà de ce que nous pouvons demander ou imaginer. Donc c'est vrai que cette puissance-là, frères et sœurs, ne nous laissons pas vraiment inhibés par tout ce que nous voyons dans le monde visible, mais mettons notre confiance dans le Dieu, sa puissance, on peut dire invisible, mais on l'a vu, il a ressuscité Jésus-Christ déjà. Voilà, vivons avec la perspective de cette puissance dans notre vie, ça nous motive vraiment de faire des grandes choses pour le Seigneur, comme le pasteur a prescrit une fois. Pas par nos forces, mais par la puissance qui agit en nous. Alors, on revient au roi David. Il cherche Dieu, il trouve Dieu, il contemple la puissance à la gloire de Dieu, donc il espère en Dieu, il s'attend à Dieu. C'est pour ça que dans sa fuite, quand le prêtre Tsadok vient avec les Lévites, pour eux, ils veulent amener l'arche de l'Alliance en fuite avec David. Mais David a dit non. Je vais vous le lire. C'est dans Samuel, 2 Samuel. L'épisode sur Absalom, c'est dans 2 Samuel, chapitre 15 à chapitre 19. Alors, David, il dit au roi Tsadok, « Ramène l'arche de Dieu dans la ville. Si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me fera revenir ici et me fera revoir l'arche et son sanctuaire. Mais s'il dit, je ne prends pas plaisir en toi, je suis prête, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. » Donc, quand David dit cela au prêtre, nous voyons qu'il est très clair, il est très sûr qu'il sait que sa vie, son sort, est entre la main de Dieu. Ce n'est pas entre la main de Absalom. C'est pour ça qu'il ne veut pas que l'arche de l'Alliance quitte le temple et quitte Jérusalem. Il remet vraiment son sort à Dieu. C'est pour ça qu'il peut vraiment espérer en Dieu. Et c'est bien ce que le prophète Jérémie aussi, j'aime bien vraiment ce verset. Lamentation de Jérémie 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Vous connaissez peut-être le prophète Jérémie. C'est un prophète qui pleure souvent parce que à chaque fois qu'il annonce la repentance, qu'il demande au peuple de revenir sur lui, personne ne l'écoute. Même les membres de la famille cherchent à le faire tuer. Donc, lui, il veut méditer. Il dit, les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Voilà. Voilà ce que c'est notre Dieu. On peut compter sur lui. Il est toujours fidèle. Alors que jusqu'à présent, j'ai trouvé aucun homme fidèle. Si vous le trouvez, je pense pas. Il n'y a que Dieu qui est fidèle, qui est juste. Voilà, vraiment, espérer en Dieu, c'est vraiment la bonne personne en qui nous pouvons ne pas être déçus. Alors, maintenant, après avoir vraiment cherché Dieu, tourné vers Dieu, espéré en Dieu, David épanche son cœur, il parle un peu ce qu'il a, sa haine, il a quand même de la haine, la colère envers ses adversaires. Et c'est pour ça qu'il le dit. Mais ceux qui cherchent à ruiner ma vie iront dans les profondeurs de la terre. Ils seront livrés à l'épée. Ils seront la proie des chacals. Et dans le psaume 3, qui a la même pensée, il demande à Dieu, tu gifles tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Voilà. Le roi David, là, vraiment, une fois qu'il sait que sa vie est entre la main du Seigneur, là, il sort ce qu'il a vraiment, sa haine envers ses ennemis. Et ça lui fait du bien de sortir tout ça. Je pense que pour chacun de nous, c'est pareil quand quelqu'un nous fait du mal. En tout cas, pour moi, si quelqu'un me fait du mal, oui, j'accepte que le Seigneur m'a dit de le pardonner. Je vais le pardonner, mais ça n'empêche que de dire au Seigneur tout le mal que j'ai pensé de lui. Et ça, Dieu le permet. Vous voyez, dans la Bible, nous voyons pas mal de prophètes, Jérémie ou d'autres, quand ils en ont vraiment de la haine, de la colère envers les adversaires, envers leurs ennemis, ils disent tout le mal. Il demande, même David, certaines fois, il demande à Dieu de déchirer ses ennemis, tout ça. Mais ça, Dieu le permet, parce que Dieu nous connaît. Il sait que si nous gardons cela en nous, nous allons le ruminer, et après, ça nous fait plus de mal. Mais une fois qu'on a sorti toutes ces colères, des paroles de colère, de haine, la haine n'est plus en nous. Elle est évacuée, elle est sortie. Voilà, c'est donc David, si vous lisez d'autres psaumes de David, vous allez voir, il a des mots durs hein, envers ses ennemis. Il sait que Dieu permet et Dieu nous demande vraiment de lui dire tout. Hein. Mais bien sûr, ne pas dire du mal de ça devant nos ennemis, mais à Dieu, on peut le faire. Et Dieu est souverain. Bien sûr, il va pas faire tout ce que nous demandons à nos ennemis. Mais c'est ça qui est bien. Avec Dieu, on peut vraiment, je veux dire, tout dire. Mais parfois, on peut même dire notre colère envers lui. Mais toujours avec respect, avec crainte. Ça, il faut garder cet esprit. Je peux dire, parfois ça m'arrive à moi, mais parfois, je pense tout le monde souvent dit, Seigneur, pourquoi c'est moi? Et pourquoi c'est pas lui? Le Seigneur répond pas, mais après, on sait. Pour moi, en tout cas, je sais, c'est pour ma correction. De toute façon, Dieu l'a dit, il nous corrige pour notre bien. Sur le coup, les épreuves, ça nous semble mal. Mais une fois qu'on sort vainqueur de l'épreuve, avec l'aide de Dieu, on a compris que c'est pour notre bien. Et Dieu, il a dit, s'il ne nous corrige pas, il nous corrige parce qu'il nous aime. S'il ne nous corrige pas, nous serons comme des bâtards. Donc, il vaut mieux être corrigé par Dieu, aimé par lui. Voilà. Donc, et David, comme il... C'est ce que a choisi David, de vraiment espérer en Dieu et sortir tout ce qu'il a vraiment de mauvais sur son fils, vraiment dire à Dieu. Et de toute façon, nous savons très bien, la Bible nous dit que Dieu, c'est le juste juge, il rendra à chacun selon ses actes. C'est pour ça que Dieu ne nous demande pas de nous venger par nos moyens, par nous-mêmes. De toute façon, tout le monde sera jugé devant le trône de Dieu. Ensuite, prends plaisir en Dieu, se réjouis en Dieu. David, devant le danger imminent, peut-être attrapé par son fils, être mis à mort, il cherche Dieu, il a trouvé Dieu, il espère en Dieu, et là, il arrive à être dans la joie, se réjouir en Dieu. Imaginez-vous, quand vous êtes dans une situation pareille, est-ce que vous pouvez le faire? Que votre ennemi est à votre trousse, est-ce que vous pouvez encore trouver le plaisir en Dieu? C'est facile de le dire. Mais de le vivre, c'est autre chose. Mais David, il a fait. Je vais lire le psaume. Je vais revenir sur... Voilà, David, il a dit sur le verset 4, « Car ta bonté vaut mieux que la vie. » Là, le roi David, il a compris que sa vie est entre la main de Dieu, comme il a dit au prêtre Sadoc tout à l'heure. Donc, même si il est mis à mort par son fils, si c'est telle est la volonté de Dieu, il sait très bien que son âme va aller se reposer auprès de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il arrive à faire cette annonce. La bonté de Dieu vaut mieux que la vie. Dans d'autres versions, c'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu vaut mieux que la vie. Et c'est vrai, quand nous pensons à nous, Dieu nous a tant aimés qu'il n'a pas hésité de sacrifier son fils, mourir à la croix à notre place, pour que nous, en ayant plaçant notre confiance en lui, que nous ne mourrons pas. Donc, vraiment, même si moi je meurs, ma vie est physique, mais mon âme est allée auprès de Dieu. Et Quand Jésus revient, j'aurai la vie éternelle avec lui. Voilà, donc vraiment, être aimé par Dieu, c'est beaucoup plus important que garder la vie physique, la vie terrestre sur, dans le monde. C'est pour cela que vraiment David, il a compris, il a saisi, et il a vraiment proclamé « La bonté de Dieu, l'amour de Dieu vaut mieux que la vie ». J'espère que nous tous, on peut dire aussi pareil. C'est pour ça que les chrétiens qui vivent dans les pays persécutés par leurs ennemis, ils ne renient pas leur foi en Jésus-Christ. Ils préfèrent mourir la vie terrestre, la vie, cette vie, mais ils sont sûrs, certains, que leur âme est déjà allée auprès de Dieu. L'apôtre Jean nous le dit dans Apocalypse. Et après, quand Jésus revient, il nous donnera un corps ressuscité. Nous vivrons dans le nouveau monde avec lui pour l'éternité. Donc, vraiment, ne pas trop aimer cette vie terrestre qui dure, comme dit Moïse, 80 ans ou 120 ans, mais par rapport avec l'éternité, vous faites le compte, même Laura n'est pas là, elle dit elle est pas bonne en calcul. Mais 80 avec éternité infinie, tout le monde le sait. Voilà, donc vraiment, c'est pour ça que j'aime bien la bonté, ta bonté vaut mieux que la vie. Et David, là, quand il arrive ici, il ne peut pas s'empêcher de louer Dieu. Là, il dit, mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Vraiment, il est, à part la paix qu'il a, il a la joie. Il est rempli de joie maintenant. Et parce que il est branché avec Dieu. Et Dieu, c'est la source de la joie, de la paix, puisque le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la foi, la maîtrise de soi. Donc, si nous sommes branchés avec la source de toutes les bonheurs, ben c'est sûr que Dieu nous donne la paix et la joie. Vous vous souvenez que Jésus il a dit, la paix que je vous donne, ce n'est pas comme la paix que donne le monde. C'est la paix qui surpasse toutes choses, qui garde notre cœur et nos pensées. Et pour cela que David, il peut rester, n'est pas paniqué devant sa fuite. Donc vraiment, le fait de louer le Seigneur, bah il a la joie. Et là, le verset 12, le roi se réjouit en Dieu. Dans le version Semeur, il dit que le roi trouvera en Dieu la source de sa joie. Voilà, l'explication vient de là. Devant la situation de détresse, il pense pas que Absalom est en train d'être en cheval pour venir le chercher. Bah, il dort. Dans le psaume 3, il dit, je m'endors l'esprit serein. Je me réveille en paix car l'Éternel est mon soutien. Vous voyez, l'ennemi à sa trousse, il arrive à dormir. C'est comme l'apôtre Pierre. Il était emprisonné, enchaîné dans la prison. Il arrive à s'endormir. Il faut que l'ange le secoue pour le réveiller. Vous voyez, quand ils sont rassurés que leur sort est entre la main de Dieu, ils ne s'inquiètent pas de leur sort. Donc le roi vraiment, David trouve son plaisir en Dieu. Est-ce que chacun de nous, on arrive à vraiment à adopter comme David? Et la deuxième personne, j'ai pensé, c'est Paul, l'apôtre Paul. Il a écrit Éphésiens, Philippiens, surtout Philippiens, c'est un hymne de la joie. Alors quand Paul écrit cette épître, vous savez où il est? Il est dans son palais, il est dans son villa, ou il est où, Paul? Oui, il est en prison à Rome, il est enchaîné. Mais il a écrit, moi je suis enchaîné, mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Et il a compris que le Seigneur l'a permis d'être en prison à Rome pour qu'il puisse annoncer la bonne nouvelle auprès de des membres de la famille du César et aux gardes impériaux. C'est le luxe que le Seigneur lui donne. C'est pour ça qu'il se réjouit. Parce que Paul a toujours prié pour que le Seigneur lui envoie permet d'aller à Rome de son propre moyen, mais s'il arrive en ses propres moyens, il n'arrive jamais à contacter les membres de César. C'est pour ça que je dis que notre Dieu, il est toujours humoristique. Il permet à Paul d'aller à Rome, mais par les moyens que Dieu a choisis. En plus, il n'a pas besoin de payer son voyage. Il est même gardé. Il est nourri, logé. Vous voyez? Et Paul se réjouit de cela. Je trouve que c'est vraiment un modèle que je dois suivre, l'apôtre Paul. Chacun de nous, je pense. C'est vraiment, voilà. Je vais voir avec vous il a écrit d'abord dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, 18. Je vous invite de lire avec moi. Si vous êtes d'accord avec ce qu'il écrit, on y va. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Voilà, donc Paul il dit ici, vraiment, soyez toujours... Là, il n'était pas encore en prison. Hein. C'était la première lettre qu'il a écrite, l'apôtre Paul, Thessaloniciens. Mais il est déjà rempli de joie, parce que... Oui. Et là, vous voyez, il a dit rendez grâce en toutes choses, en toutes circonstances. C'est vrai, hein? Dire merci à Dieu quand tout va bien, quand tout roule, c'est facile. Vous êtes d'accord? Et quand tout va mal, tout sombre. Tout semble sans issue. Est-ce qu'on arrive encore à dire merci Seigneur? C'est dur. Quand on a une maladie, j'ai vu l'exemple d'une sœur chrétienne. Elle avait un cancer. Ensuite, après, c'était propagé partout. Donc, c'était presque la fin de ses jours. Et elle souffrait beaucoup, elle avait mal. Mais à chaque fois que je la vois, elle se plaint jamais. Elle ne dit jamais pourquoi c'est moi, pourquoi c'est lui, pas lui. Et elle ne dit jamais pourquoi si, pourquoi ça. Elle est toujours dans la paix. Parfois, elle est joyeuse. Pas des moments où elle a mal, mais vraiment, moi je me dis, elle est vraiment, c'est une personne qui a vraiment Christ dans sa vie, quoi. Elle peut supporter tout ça parce que vraiment Jésus a écrit avec elle, quoi. Voilà, donc vraiment c'est vraiment un exemple à voir. J'ai entendu un pasteur qui m'a raconté sa maman. Elle était pareil, elle avait une maladie grave, elle était à l'hôpital. Elle était toujours joyeuse et ça intrigue le personnel parce qu'elle dit. T'as une maladie grave, elle était toujours en train d'être souriée. C'est pourquoi, du coup, elle a pu prêcher l'évangile, quoi. Même à son compagnie, les personnes qui étaient dans la même chambre. Voilà, c'est vraiment, le Seigneur nous met à chacun, nous donne des épreuves. Probablement, s'il nous demande, on va pas dire, je veux ci, je veux ça, comme souffrant. Personne ne veut souffrir. Mais, parfois, il nous donne des épreuves pour que nous sortons vraiment ressembler à Christ. Voilà. Je ne connais pas quelle est ta situation actuelle. Peut-être en recherche de travail, peut-être démoralisé, découragé. Mais ne jamais douter de l'amour de Dieu, ne jamais douter de la bonté de Dieu. Dieu est bon en tout temps. Ce qu'on nous a chanté avec les enfants ce matin. Et Dieu est fidèle. À chaque fois, si tu commences à écouter la voix de Satan qui te chuchote, tu vois, je t'aime pas assez, hein, il t'a permis ça, t'arrives, hein, tu vois, il préfère l'autre que toi, là, il a dit. Non. N'écoute pas cette voix-là. Tu médites tout de suite toutes les bontés de Dieu dans le passé. Et tu lis la Bible. Tu vois les versets qui proclament la bonté de Dieu, la fidélité. Lamentation de Jérémie 3:21, je trouve que c'est... Moi, j'ai appris par cœur, comme ça, à chaque fois, j'ai quelque chose, je récite là-dessus, et c'est la parole de Dieu qui me parle et qui m'encourage. Voilà, donc ne te laisse pas douter de Dieu. Ça, c'est tactique de l'ennemi de Dieu, Satan. Ne tombe pas dans son piège. C'est pour cela que Paul nous demande de prier sans cesse. La prière nous garde éveillés. Et vraiment, partager ta peur, ta détresse avec les autres frères et sœurs et qui vont prier pour toi dans la prière, ça va porter. Mais des fois, c'est vrai, hein, Dieu permet que certains chrétiens aient un cancer qui soit guéri, d'autres qui aient un cancer qui meurt. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. On peut jamais savoir. On a juste à accepter, à soumettre et de dire que Seigneur, tout ce que tu me donnes, c'est bon pour moi. Et puis, Philippiens 4:4. C'est un des versets, peut-être on ne devrait pas dire ça, c'est un de mes versets préférés. On dit ensemble, après on récite son écran. Trois fois et après son écran, d'accord? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Amen. Ça y est, déjà, vous avez récité un verset. Voilà, donc nous avons vu comment David, dans la situation vraiment désespérée, il ne regarde pas sur la situation. Il remet sa vie entre la main du Seigneur. C'est pour cela que vraiment, frères et sœurs, comptez tous les jours les bienfaits du Seigneur. Et puis, puisque nous sortons du week-end écouant, nous avons eu un enseignement sur vivre l'intimité avec Dieu. Donc, prenons soin de cette relation intime avec Dieu. Et comme ça, nous le connaissons, lisons sa parole. Vous êtes sûr de son amour, de sa bonté, de sa fidélité pour nous. Comme ça, à chaque fois qu'il nous arrive un malheur ou des situations désespérées, détresse, etc. Tout ce que nous ne souhaitons pas, on va dire. Maladie grave ou perte de travail ou etc. Ne regardez pas sur la situation, la circonstance. Regardez vers le Seigneur. Comme dit Hébreux 12, fixons nos regards vers le Seigneur Jésus-Christ qui a ouvert le chemin de la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Prions ensemble. Abba Père, merci vraiment pour ton amour qui répond de la croix, Père. Tu n'as pas voulu voir les méchants mourir. Tu veux les voir se repentir et venir à toi, avoir la vie. Et c'est bien ce que tu as fait pour chacun de nous. Merci de nous avoir aimés, de nous avoir choisis et de vraiment être aimés par toi. Père, aide-nous vraiment à compter tes bienfaits chaque jour et cultiver, chérir cette relation avec toi chaque jour, te connaître un peu plus chaque jour pour que nous puissions vraiment te laisser encourager, consoler et même corriger à travers les épreuves que tu nous donnes. Et surtout pendant ces épreuves, Père, que tu nous donnes vraiment le courage et la patience, la persévérance de vraiment de fixer, de te faire confiance jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ, Amen.